Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Regard en ce début d'année sur l'ONU. Un affaiblissement de l'esprit de compromis démocratique et une indifférence vis-à-vis des règles collectives sont deux poisons du multilatéralisme, déclarait récemment le secrétaire général de l'ONU, citant le Conseil de sécurité des Nations Unies divisé sur le conflit syrien, l'intensification des confrontations commerciales et la crise de confiance dont fait face l'Union européenne. Le décor est ainsi planté alors que le monde et les Nations Unies font face à de multiples crises, Yémen, Syrie, à propos de laquelle on notera l'entrée en fonction du nouveau représentant onusien, Geert Pedersen, en remplacement de Staffan de Mistura. Également crise des réfugiés, l'année 2018 s'étant terminée sur l'affaire du pacte des migrations, marquée par le retrait d'une quinzaine de pays au motif d'une violation de leur souveraineté. Peut-on parler de débâcle de l'ONU? Et cette débâcle ne dépasse-t-elle pas le retrait de textes comme celui du pacte sur l'immigration? Retrait de textes, voire d'accord comme celui des États-Unis sur le climat. Au-delà, y a-t-il échec du multilatéralisme et dans quelle mesure cette situation met-elle l'ONU en danger? C'est ce que nous allons voir avec nos invités en duplex depuis le bureau de Pascal Thibault, notre correspondant à Berlin. Alexandra Novoselov, chercheure associée à l'International Peace Institute de New York et au centre Thucydide de Paris 2 Panthéon-Assas, qui a dirigé le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc de la Sablière, ambassadeur de France, ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, enseignant à Sciences Po, chargé du séminaire sur le Conseil de sécurité et auteur de Indispensable ONU, paru aux éditions Plomb. Bonjour.
Bonjour.
Et Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique, spécialiste des institutions européennes, de l'ONU et de l'Afrique, co-auteur avec Romuald Sciorra de Qui veut la mort de l'ONU, paru aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
La remise en question par Donald Trump d'institutions comme l'ONU fait que beaucoup d'États n'ont plus la conviction que les Nations Unies peuvent être efficaces simplement parce qu'elles n'ont pas l'adhésion des grandes puissances. Quel regard portez-vous sur ce constat? Le phénomène peut-il n'être lié qu'à Trump et donc être éphémère, un président américain ne pouvant faire plus de deux mandats de quatre ans? Ou s'agit-il de quelque chose de plus profond, conséquence des discours populistes qui risquent de détruire durablement le cadre juridique et politique péniblement construit depuis la Seconde Guerre mondiale, Alexandra Novoselov?
Oui, enfin, pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est une vague de fond ou si ça va être temporaire, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un manque d'intérêt de beaucoup d'États à une gestion collective des affaires du monde. Ils ne voient pas qu'est-ce que ça peut leur rapporter et donc il y a une désaffection du multilatéralisme. Ça, c'est un constat qu'on doit faire. Et face à ça, je crois que le rôle du secrétaire général est primordial pour rappeler un certain nombre de valeurs, rappeler le cadre quand même de la Charte des Nations Unies, qui est là pour non pas empêcher les États d'agir, mais de réguler un peu leurs relations. Alors, c'est vrai que quand il y a un repli sur soi, c'est vrai qu'il y a moins d'intérêt vers une gestion collective des affaires du monde.
Jean-Marc de la Sablière.
Alors, il faut, je crois, partir d'abord du constat, et moi, je partage l'opinion sur laquelle l'ONU ne va pas bien actuellement. Alors, est-ce que ça va très mal ou tout va mal? La réponse est, je crois, non. Il ne faut pas non plus tomber dans un pessimisme trop grand. Il y a des tas de domaines où il y a une valeur ajoutée, notamment dans l'humanitaire. Il y a des tas de domaines qui sont méconnus, comme tout ce qui est fait dans le cadre des institutions spécialisées, et même au Conseil de sécurité, s'il y a des blocages, par exemple, notamment sur des sujets très importants comme la Syrie, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut discuter. Donc ça, c'est le premier point. Ça ne va pas très bien. Alors, la deuxième question que je crois vous poser, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la faute du président des États-Unis, Donald Trump? Moi, je pense que c'est en partie sa faute, en partie, mais pas uniquement. En partie, pourquoi? Parce que c'est une personnalité, un homme politique, président du plus grand pays, qui est contre le multilatéralisme. Ça veut dire qu'il ne l'accepte que s'il est favorable aux États-Unis, et s'il n'est pas favorable, il le refuse. Donc, finalement, il n'est pas pour les compromis, il est pour pour qu'un système soit à l'avantage uniquement des Américains. Donc il l'affaiblit. Deuxièmement, il est, je dirais, plutôt anti-ONU. Hein, je veux dire, il n'aime pas les Nations Unies. Bon, maintenant, il n'est pas le seul responsable de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Je crois qu'il a accentué une vague et qu'il la rend beaucoup plus dangereuse encore. Mais, de mon point de vue, c'est ce que je dis dans Indispensable ONU, c'est que, il faut, je rappelle, que s'agissant des questions de paix et de sécurité, il y a une responsabilité collective, et notamment les cinq permanents, donc les grandes puissances, n'est-ce pas, ne coopèrent pas suffisamment entre elles, et elles ont une responsabilité également dans le fait qu'il n'y a pas de succès dans ce domaine. Et puis, il faut bien voir que cette crise du multilatéralisme, elle touche aussi l'Europe, elle est assez générale, voilà.
Alors, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ne coopèrent pas suffisamment, donc il y a un manque d'unité évident du Conseil de sécurité. On peut souligner aussi, on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission, que ces puissances se font la guerre, notamment en Syrie. Anne-Cécile Robert.
Oui, Donald Trump est un révélateur, avant tout, de quelque chose de profond, d'une tendance lourde. Alors, il le révèle bien parce qu'il a une personnalité très éruptive et qu'il ne prend pas de gants, mais le problème est profond et général, et c'est un problème politique. C'est-à-dire que le problème n'est pas tellement le repli sur soi, c'est la tentation de puissance. En ce moment, on n'est pas confronté. Ça serait, à la limite, ça serait mieux si les États voulaient rester chez eux sans rien faire. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont envie de s'affronter, de se tester, pour savoir qui est le plus fort. Et c'est ça qui rend la situation dangereuse, d'abord parce que ça porte des guerres, et puis parce que ça casse toute la logique profonde du multilatéralisme, qui est de mettre les gens autour d'une table pour discuter. Et je m'interroge d'ailleurs à ce sujet sur ce que c'est que l'efficacité des Nations Unies. L'efficacité des Nations Unies, c'est pas forcément, je pourrais dire de manière provocatrice, de prendre des décisions. C'est d'abord de créer de la politique internationale, c'est-à-dire de créer un espace où on va discuter. Et c'est ça qui est en danger aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les grandes puissances n'ont plus envie de discuter vraiment, n'ont plus envie de créer un espace de discussion, et qu'elles préfèrent finalement s'affronter et se tester. Or, la mission des Nations Unies, c'est pour ça qu'on l'a créée il y a plusieurs décennies maintenant, c'était d'être ce forum où on va définir des règles du jeu.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, les grandes puissances n'ont plus envie de créer un espace de discussion. Alexandra Novoselov, je vais vous demander de réagir. Et oui. La question qui se pose, c'est est-ce que finalement, à la fin de la guerre froide, il n'y a pas une occasion qui a été foncièrement ratée ? Alexandra Novoselov.
Bon, je crois que d'abord, ce qui se passe aux Nations Unies est le reflet de tensions plus générales. Et je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui ou dans une situation internationale où il y a un certain nombre de cartes qui sont rebattues et que donc l'ONU subit les conséquences de ça. Je crois que d'abord, on peut pas dire que on ne discute plus aux Nations Unies. Je veux dire, ça c'est pas vrai. Peut-être qu'on ne prend plus de décisions, mais on continue de discuter dans les couloirs, que ce soit sur la Syrie, aujourd'hui sur le Yémen, vous voyez qu'il y a quand même une ouverture qui s'est créée. On ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas, elle est là. Donc, je crois que il faut faire la différence entre la décision qui va être prise et l'unanimité, etc. Et puis ce qui continue à se passer dans les couloirs. Et justement, dans un monde où les puissances sont en train de se repositionner, les Nations Unies sont bien entendu le reflet de ça, enfin les positions au Conseil de sécurité, mais ça n'empêche pas qu'il y a un effort qui soit fait pour justement éviter une trop grande confrontation et maintenir le dialogue.
Jean-Marc de la Sabillière, c'est cela le rôle de l'ONU aujourd'hui, juste un espace de discussion et non plus un espace de, ou en tout cas une force de décision?
Non, moi je partage pas cette analyse. Enfin, je regarde, si vous voulez, ce qui se passe, parce que c'est mon métier, hein, je veux dire, j'ai été 11 ans, donc, assis au siège du Conseil de sécurité à différents moments. Et je pense, si vous voulez, que s'agissant d'abord du Conseil de sécurité, aujourd'hui, du fait du désaccord entre les membres permanents, il y a une incapacité à trouver une entente sur des sujets qui sont d'intérêt stratégique pour certains d'entre eux. Alors, on voit, c'est dans le cas notamment de la Syrie, je veux dire, vous avez... On est passé en 6 ans, 5 ans, une coopération minimum à un quasi-blocage, même un blocage, je veux dire, actuellement sur la Syrie. Mais vous avez des espaces qui existent. Je veux dire, actuellement, on vient d'avoir une résolution récente sur le Yémen, et les Nations Unies ont été quand même très actives dans ce qui s'est passé sur le port de Daïda. Donc il y a, si vous voulez, également dans le domaine des forces de maintien de la paix, même si on peut améliorer les choses, il y a quand même tout un espace de discussion. Et pendant la guerre froide, il y a eu des époques où il y a eu une résolution du Conseil de sécurité adoptée une fois, en 59 je crois, une seule fois. Actuellement, vous en avez 60, ce qui prouve que non seulement on discute, mais quelquefois on peut même recommander et décider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que on a manqué, c'est ce que dit le livre d'Cécile Robert, notamment, est-ce qu'on a manqué une occasion, je veux dire, au moment de la fin de la guerre froide. Moi, j'étais là-bas, donc, à l'époque, et je crois, si vous voulez, qu'il y a eu à la fois un rêve du nouvel ordre, tout le monde, compte tenu de l'accord qui s'était fait sur la libération du Koweït, compte tenu du fait qu'on arrivait à s'entendre pour lancer des opérations qui ont été très, très, très réussies, comme la Namibie, comme le Mozambique, on a eu à un moment donné un rêve. En réalité, il n'y a pas eu suffisamment à l'époque, ça que je peux rejoindre un peu cette analyse, il n'y a pas eu suffisamment à l'époque... la prise en compte des intérêts, je pense, de tous les permanents suffisamment. Je crois que les pays occidentaux ont un peu utilisé à l'époque le système parce qu'ils étaient en position de force et
notamment les Américains
à leur avantage un peu. Et donc, je dis pas qu'on aimerait. Je pense que eux ont raté, je pense, une occasion à l'époque. Oui.
Anne-Cécile Robert.
La discussion effectivement a lieu, mais à mon sens, elle n'a pas lieu sur l'essentiel. Et le risque qui pèse aujourd'hui sur les Nations Unies, c'est d'être effectivement un forum où on discute de plein de choses, mais en fait on est toujours à côté de l'essentiel, c'est-à-dire les règles du jeu international. Et quand Jean-Marc de la Sablière souligne à l'instant, et il a bien raison, qu'il n'y a pas d'accord entre les membres permanents du Conseil de sécurité sur un certain nombre de crises, c'est exactement ça que je veux dire quand je dis qu'il n'y a pas de discussion. Tous les jours, effectivement, aux Nations Unies, vous avez des comités, des réunions, on discute. Mais l'essentiel, c'est-à-dire l'accord sur la manière dont doit fonctionner la société internationale, ne se fait pas. Or, c'est bien ça qui empoisonne la discussion internationale, notamment avec les Russes, c'est qu'on ne sait plus, finalement, quelles sont les règles du jeu fondamentales sur lesquelles on s'accorde. Et tout le monde, en ce moment, parmi les 5 permanents, viole la Charte des Nations Unies, y compris sur le recours à la force. Le fondement de la discussion internationale, c'est la paix et la sécurité, le recours à la force. Donc les Russes sont mis en cause, effectivement, ils violent la charte, par exemple, en Ukraine, etc. Mais la France l'a fait également en Syrie l'année dernière, avec ce bombardement. Donc c'est en ce sens que je trouve que la discussion internationale tourne à vide. C'est-à-dire, effectivement, on parle de tout, mais est-ce qu'on est capable d'avoir une discussion sur les équilibres fondamentaux de la sécurité internationale? Et à mon avis, non, on laisse d'ailleurs se développer les foyers de crise, la Syrie est un bon exemple, qui sont un peu le précipité, la concentration de tout ce qu'on devrait discuter et dont on ne parle pas.
Jean-Marie de la Sablière, vous souhaitez...
Oui, alors moi je voudrais à la fois partager ce qui vient d'être dit et en même temps rappeler que les choses peuvent évoluer. Quand vous regardez l'histoire de l'ONU, et cette institution, je parle du domaine de la paix et de la sécurité, parce qu'il faut aussi parler du climat et de tout ça, qui sont des affaires tout à fait fondamentales, comme vous avez prévu de le faire. Mais si on prend les domaines de la paix et de la sécurité, il y a une donnée fondamentale, et vous ne pouvez pas la changer, c'est une donnée qui est inscrite dans la charte et qui a été décidée pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était l'idée, si vous voulez, que pour que la paix puisse être durable après la Deuxième Guerre mondiale, il y a besoin que les puissances qui ont été en guerre contre l'axe, ça veut dire il y a besoin que les grandes puissances qui ont leur responsabilité parce qu'elles sont puissantes, n'est-ce pas, coopèrent entre elles. C'est ça qui est le fondement, si vous voulez, de la charte. Et elles ont donc ce droit de veto, ce qui est une responsabilité. Donc elles ont une véritable responsabilité dans ce domaine. Alors quand elles ne s'entendent pas, ou quand il n'y a pas d'accord, le système ne marche pas. Pendant la guerre froide, il n'a pas marché. Bon. Ensuite, il a marché pendant un temps, mais il a eu des crises. Il a eu la crise de 2003 sur l'Irak, qui était quand même une crise très, très importante. Et puis ensuite, il a repris. On a eu une période qui n'a pas été mauvaise, jusqu'en 2011. Et puis, il y a eu l'affaire libyenne, où il y a eu un désaccord, finalement, sur la manière dont cette affaire a été gérée. Et ça a accentué, au fond, déjà des tendances qu'on constater de division entre les membres permanents. Mais si les membres permanents, et je pense que y compris la France, n'est-ce pas, on parlait de recours à la force, exerçaient véritablement la responsabilité qui est la leur, qui est prévue par la charte, s'ils coopéraient ensemble, on aurait une meilleure situation. Et ça peut revenir. En tous les cas, pour l'instant, c'est vrai qu'alors quand ils n'ont pas de désaccord stratégique, il y a des discussions, y compris les décisions. Mais quand il y a un désaccord stratégique, c'est bloqué.
Alexandra Novoselova, vous souhaitez rajouter quelque chose? On pourra parler peut-être aussi, Jean-Marc de la Sablière évoquait le besoin de coopération. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est quelque chose qui se retrouve aussi au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. En tout cas, ça ajoute de la tension. Alexandra Novoselova, avant de terminer cette première partie d'émission.
Oui, enfin, je voulais dire quand même que c'est pas parce que les grandes puissances ne s'entendent pas que les règles du jeu international ne sont pas là. Les règles du jeu, elles, c'est la charte. Et aujourd'hui, personne n'est sorti des Nations Unies. Je crois qu'il faut faire vraiment la différence entre... Et d'abord, tout ne doit pas forcément remonter au Conseil de sécurité. Mmh. Et encore une fois, le Conseil de sécurité, les grandes puissances font ce qu'elles peuvent. Je crois que ça maintient quand même... On essaye de contenir un certain nombre de choses à travers le Conseil de sécurité. Mais c'est vrai que il y a des choses qui échappent au Conseil de sécurité. C'est la règle... Les rédacteurs de la charte n'ont jamais considéré que tout allait passer par le Conseil de sécurité, mais justement, ces règles-là obligent quand même à un certain nombre de discussions. Ensuite, ce qui se passe en termes de conflits commerciaux, etc., ajoute bien entendu à la tension, mais ça, c'est encore un autre élément, une autre dimension, je pense.
Alors, personne n'est sorti des Nations Unies jusqu'à présent. Effectivement, on va s'arrêter quelques instants rapidement pour terminer cette première partie. On prolongera dans la deuxième partie de l'émission. La question de savoir, par exemple, les intentions réelles des États-Unis. L'ONU, on peut le rappeler, à son siège à New York. Washington s'est retiré de l'UNESCO, fait peu cas de l'Organisation mondiale du commerce, attaque et menace la Cour pénale internationale et ne tient pas compte de l'expertise et des contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran. Pour les États-Unis, Anne-Cécile Robert, c'est un peu dedans et beaucoup dehors.
Alors c'est difficile de dire les États-Unis en ce moment parce que Donald Trump est quand même une personnalité très particulière qui suit son instinct. Et sa logique, c'est ce qui est bon pour les États-Unis doit conduire à régir le monde. La question, c'est est-ce que la présidence Trump correspond à une tendance lourde des États-Unis ? Et on peut, si on regarde les résultats des élections au Congrès, on peut quand même s'interroger pour savoir si il n'y a pas aux États-Unis une tentation effectivement de se replier sur ses intérêts nationaux, avec le risque de déstabiliser tout l'ordre international, puisque sans les États-Unis, on a du mal à concevoir comment pourraient fonctionner les Nations Unies et le multilatéralisme.
En tout cas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce repli américain ouvre un boulevard pour la Chine à l'ONU. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités Jean-Marc de la Sablière, Alexandra Novoselov et Anne-Cécile Robert après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'ONU avec cette question. L'ONU est-elle en danger? Nous retrouvons nos invités en duplex depuis le bureau de Pascal Thibault, notre correspondant à Berlin. Alexandra Novoselov, chercheure associée à l'International Peace Institute de New York et au centre Thucydide de Paris 2, Panthéon Assas. Alexandra Novoselov qui a dirigé le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance. Jean-Marc de la Sablière, ambassadeur de France, ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, enseignant à Sciences Po, chargé du séminaire sur le Conseil de sécurité et auteur de Indispensable ONU, paru aux éditions Plomb. Et Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique, spécialiste des institutions européennes de l'ONU et de l'Afrique, co-auteur avec Romuald Sciorra de Qui veut la mort de l'ONU, paru aux éditions Erol. Nous avons évoqué en fin de première partie la question des États-Unis avec cette interrogation sur les intentions réelles de Washington. On peut rappeler que l'ONU a son siège à New York, que Washington s'est retiré de l'UNESCO, fait peu cas de l'Organisation mondiale du commerce, attaque et menace la CPI et ne tient pas compte de l'expertise et des contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran. Parallèlement, on assiste depuis plusieurs mois maintenant à une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que cette tension entre les deux pays se retrouve et de quelle manière au sein même du Conseil de sécurité? Et au-delà, que sait-on aussi des intentions de Pékin? Il est évident que le désengagement des États-Unis, c'est un boulevard pour la Chine. L'ONU intéresse-t-elle la Chine? Pourquoi faire? Est-ce que la Chine est en train d'y prendre le pouvoir? Jean-Marc de la Sablière.
Je pense que les deux grands risques qui existent pour l'ONU si la situation continuait à se détériorer, c'est un, le risque de la marginalisation. Pas dire que l'ONU va disparaître, non. Le risque de la marginalisation plus grande. Et deuxièmement, le risque aussi de la perte d'un outil, c'est-à-dire de la perte d'efficacité pour la communauté internationale. Alors, on le verra, je reviens sur Donald Trump, notamment dans l'affaire du climat, je pense sur le multilatéral. Personnellement, je ne sais pas si la position américaine actuelle, défendue par Trump, est uniquement une parenthèse, ou s'il y a dans l'ADN, n'est-ce pas, comme on dit aujourd'hui, des éléments qui se manifesteront, même s'ils n'étaient pas réélus. Ce que je crois, c'est que s'il était réélu, ce serait un très mauvais coup pour le multilatéral. Parce que on peut imaginer qu'au bout de 4-5 ans, je veux dire, les choses reviennent et que, au fond, ça a été un mauvais moment et que la situation se rétablisse comme avant. C'était quoi comme avant? Moi, j'ai toujours vu la position américaine comme déterminée, actuelle, hein, je ne parle pas du début des Nations Unies. Je crois que les Américains, il y a une constante que moi j'ai constatée souvent, qui était à la fois de ne pas vouloir des Nations Unies trop fortes, pas qu'elles les gênent, mais en même temps d'avoir un outil qui fonctionne parce que on a besoin dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de circonstances. Et donc, ils jouaient avec ça, davantage multilatéral et ONU pour les démocrates, un peu moins pour les républicains, encore que le président Bush père, qui avait été ambassadeur à l'ONU, était assez favorable aux Nations Unies. Donc là, je pense qu'il y a une interrogation. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur la Chine. Si on dépasse le court terme, on essaie de se projeter sur le moyen terme, on ne peut pas ne pas être convaincu, je crois, sur le plan institutionnel, que l'avenir des Nations Unies dépendra en grande partie de la relation entre les deux grandes puissances qui sont les Chinois et les Américains, et que de la vision qu'ils auront, et de leur rapport, et de la vision qu'ils auront sur l'ONU. Est-ce que, une question, je veux dire, qui est une question que moi je pose à la fin de mon livre sur le Conseil de sécurité, ambition et limite, je veux dire, qu'est-ce que la Chine voudra faire des Nations Unies? Est-ce que la Chine voudra des Nations Unies marginalisées en disant mes intérêts d'abord et je ne veux pas que... Ou est-ce que la Chine voudra, très puissante, utiliser ou également et vouloir coopérer à travers les Nations Unies pour régler beaucoup de crises qui ne sont pas dans sa arrière-cour, par exemple. Je veux dire, bon, aujourd'hui, pour revenir brièvement sur la question que vous posez, est-ce que la position américaine offre un boulevard aux Chinois? Je crois que beaucoup de pays aux Nations Unies constatent que la Chine aujourd'hui a une approche qu'ils jugent positive et donc la montée en puissance de la Chine est facilitée effectivement par ce rejet du multilatéral par les Américains.
Alexandra Novoselov, après ça je vous passe la parole à Anne-Cécile Robert. Alexandra Novoselov.
Oui, je crois que la conception un peu, c'est le multilatéralisme à la carte pour tout le monde. Bon, c'est pas nouveau, c'est ce qu'avait essayé de promouvoir la présidence Clinton, mais là où c'est cette conception est un peu dangereuse, c'est quand elle se couple entre guillemets avec un discours sur la souveraineté. Le premier discours de Donald Trump à l'Assemblée générale en disant nous sommes tous souverains, ça a quand même fait plaisir à un certain nombre de pays. Et ça veut dire on accepte ce qui nous arrange et on rejette ce qui nous gêne. Et là, je crois que c'est ça qui peut être difficile et qui sera compliqué à gérer pour les Nations Unies.
Anne-Cécile Robert.
Je n'ai pas une vision apocalyptique de la souveraineté, parce que les États sont souverains de par la charte, ils l'ont toujours été. La souveraineté devient un problème lorsqu'elle coïncide avec une vision étroite, fermée et égoïste. Mais c'est pas toujours le cas. Vous avez des grandes puissances souveraines. Les grandes puissances qui ont fait les Nations Unies en 45 étaient des puissances souveraines qui avaient compris que leur intérêt était de faire les Nations Unies. Et donc le problème aujourd'hui est politique. Il faut que les pays comprennent qu'ils ont intérêt au multilatéralisme et qu'ils ont intérêt aux Nations Unies. Et l'exemple de la Chine est très intéressant parce que la Chine s'intéresse aux Nations Unies, investit les Nations Unies, beaucoup de commissions de travail. En plus, contrairement aux autres pays, elle a de l'argent. Donc elle peut financer des programmes. En revanche, l'inquiétude, c'est qu'elle ne s'intéresse absolument pas aux droits de l'homme. Et ce qu'on constate dans le fonctionnement des Nations Unies, c'est qu'à chaque fois qu'elle le peut, elle va couper les crédits à tout ce qui permet de protéger les droits de l'homme. Par exemple, pour les opérations de maintien de la paix, auquel la Chine s'intéresse parce qu'en Afrique, elle a des intérêts économiques importants. Et donc, il faut qu'elle puisse assurer la paix et la sécurité de ses approvisionnements. Elle veut bien financer certaines opérations, à condition qu'il n'y ait pas d'officiers spécialistes des droits de l'homme qui participent à ces missions. Et c'est un peu ça le danger. C'est une espèce d'utilitarisme appuyé sur l'argent qui fait qu'on saucissonne l'ordre international en fonction des intérêts de ceux qui ont les moyens de se défendre et de se promouvoir.
Alors, Jean-Marc de la Sablière. Oui, Alexandra Novoselov.
Je voulais juste rajouter un point justement concernant cette question de la souveraineté. C'est vrai que le problème, c'est par exemple quand il y a des opérations de maintien de la paix déployées et où il faut forcément dire à un certain nombre d'États souverains qu'il faut qu'ils mettent en place toute une gamme d'actions respectant l'état de droit. On le voit avec les élections, par exemple, en RDC, où la Chine favorise la position du président Kabila, la position des gouvernements en place. Et c'est ça qui peut poser aussi problème, parce que là, il n'y a plus l'ONU, le secrétariat n'a plus de capacité d'unité du Conseil de sécurité face à des crises comme celle-ci, des crises notamment électorales, pour dire respecter le résultat des urnes.
Jean-Marc de la Sablière.
Oui. La question des droits de l'homme est une question qui est très importante, je crois, et bon, je constate qu'elle est particulièrement importante pour nous Français. Je crois qu'on en parle, et puis quelques autres pays, on en parle davantage, n'est-ce pas, qu'ailleurs. Alors, je pense que c'est de notre ADN et que nous avons des responsabilités dans ce domaine et qu'il nous appartient, au Conseil de sécurité, aux Nations Unies, de défendre ses positions, par exemple dans les opérations de maintien de la paix, de défense, qu'il nous paraît juste, je veux dire, les droits de l'homme, c'est pas uniquement pour les droits de l'homme, c'est parce que leur respect est de nature à assurer la paix, n'est-ce pas ? C'est ça qui est le également un élément tout à fait fondamental. Alors, il ne faut pas non plus tomber, si vous voulez, dans une lecture où il faut tout faire en fonction des droits de l'homme. Il y a les intérêts des États et les politiques étrangères, c'est un compromis, n'est-ce pas, dans la recherche de quel est l'intérêt fondamental du pays. Je trouve que l'intérêt fondamental de la France est effectivement la défense des droits de l'homme, mais il n'y a pas... C'est important, mais nous devons prendre en compte tous les intérêts. Et nous devons, dans la période qui est la période actuelle, une période difficile, Français et Européens ne doivent pas avoir peur de défendre leur position.
Alors Alexandra Novoselov évoquait le multilatéralisme à la carte. C'est vrai que en ce qui concerne les Chinois, on les voit s'afficher en défenseur de ce multilatéralisme tout en menaçant Taïwan. Alors plusieurs points pour débattre et continuer de débattre. Vous évoquiez la marginalisation de l'ONU. Ce qu'on peut voir, c'est que cette marginalisation, elle n'est pas le seul fait des puissances les plus critiques à l'encontre de l'ONU, il y a aussi la France avec cette organisation du Forum de la paix en novembre dernier. Est-ce que c'était à la France plus qu'à l'ONU d'organiser ce forum? Et on va aller plus loin face à cette crise du multilatéralisme que on évoque depuis le début de cette émission. Quel vous semble devoir être le rôle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres? Qu'est-ce qu'il veut répondre, Anne-Cécile Robert?
La France défend le multilatéralisme depuis toujours et aujourd'hui particulièrement par la voix d'Emmanuel Macron. Le risque, c'est que ça devienne une espèce de mot magique et que ce ne soit pas suivi des faits. Et effectivement, j'ai été frappée personnellement que la France organise ce forum de Paris sur la paix, qui est une bonne idée. C'est très très bien de le faire parce qu'il faut effectivement un lieu où on discute des relations internationales. Mais pourquoi n'a-t-elle pas passé le bébé à l'ONU? Alors le secrétaire général a été invité, c'est lui qui a ouvert les débats. Mais quelques semaines avant, il n'était pas fixé que le secrétaire général puisse venir. Donc il y a une espèce de contradiction. On parle beaucoup du multilatéralisme, mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire concrètement pour qu'il fonctionne? Et la France doit montrer l'exemple. C'est pour ça que j'étais particulièrement choquée du bombardement en Syrie au printemps dernier, qui viole une disposition fondamentale de la charte sur l'interdiction du recours à la force. Donc il faut que les intentions multilatérales se traduisent en actes.
Alexandra Novoselov.
Bon, je crois que tout ce qui participe de la discussion sur ce sujet-là doit être le bienvenu. Bon, que la France organise ce forum de la paix dans le contexte où on a quand même un président qui est largement favorable à cette façon de gérer les affaires du monde. Pourquoi pas? Effectivement, il faut que les Nations Unies aient une espèce de prééminence là-dedans, parce que c'est quand même là où est le cœur du multilatéralisme, même si, comme vous l'avez rappelé précédemment, il n'y a pas que les Nations Unies qui agissent comme ça, l'Union Européenne, l'OSCE, toutes les organisations internationales font partie de cette approche multilatérale des choses.
Jean-Marc de la Sablière.
Vous savez, sur le forum la paix, moi je dirais surtout que je ne vois pas très bien l'efficacité de ce genre d'événement. Hein. Je parle de la paix, c'est très bien, mais enfin c'est très hexagonal, c'est quand même assez limité comme portée. Alors la France fait des choses très bien dans le domaine du climat. D'ailleurs, elle coopère beaucoup avec la Chine. Et c'est très important parce que la sortie des États-Unis, elle ne sera actée, efficace, que si le président Trump est réélu. Parce que les dispositions, alors pas rentrer dans les détails si vous voulez, mais ça ne rentrait en vigueur qu'à l'automne 2020, n'est-ce pas? Donc il peut y avoir un retour et il faut bien voir qu'une bonne partie de la société américaine est pour le maintien des États-Unis, notamment les grands États, la Californie, etc., pour le maintien des États-Unis. Donc, alors, je veux revenir sur l'affaire des Nations Unies à la carte. Moi, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas des Nations Unies à la carte. Mais on voit toujours les autres l'utiliser à la carte. Il nous arrive à nous aussi de l'utiliser à la carte.
Vous pensez à quoi en particulier?
Et je pense par exemple que sur la question de l'usage, pour revenir à ce que disait Anne-Cécile Robert, c'est-à-dire que sur la question de l'usage de la force, nous ne respectons pas toujours la charte. Donc, quelquefois, ça nous est arrivé dans certaines circonstances de ne pas la respecter. Alors, je ne dis pas que quelquefois c'est légitime, quelquefois de ne pas la respecter. Je veux dire, je pense qu'au Kosovo, par exemple, on a eu raison de le faire, mais il faut faire très très attention. Hein, il ne faut pas dire c'est moi qui décide parce que je sais ce qui est bon pour l'humanité. Donc, je veux dire, quand on demande que les autres puissances respectent la charte dans son intégralité, qu'il n'y a pas d'usage à la carte, si vous voulez, de la charte, il faut être exemplaire soi-même. Bon. Alors, le secrétaire général.
Oui.
Le secrétaire général est une institution, qui n'a pas beaucoup de pouvoir dans la charte. D'ailleurs, on l'appelle le secrétaire général, il est le patron de l'administration, n'est-ce pas? Et il a acquis, assez tôt, sous Dag Hammarskjöld, n'est-ce pas, il a acquis un pouvoir, une puissance, une autorité plutôt qui était politique, par ses facilitations, par ses prises de position, par la politique qu'il mène. Alors on a des secrétaires généraux, quand on regarde l'histoire, qui ont été plus secrétaires et d'autres plus généraux, comme on dit dans un raccourci aux Nations Unies qui nous amuse toujours. Je dirais que l'actuel n'est pas très général, hein, je veux dire. Bon, et je suis un peu encouragé. Alors, il réforme l'administration, ce qui est très bien. Il faut toujours réformer, ce qui est compliqué aux Nations Unies avec tous les intérêts qu'il y a. Donc, c'est compliqué. Mais à un moment donné, de l'histoire des Nations Unies, où on souffre beaucoup du fait que les permanents sont en désaccord sur des sujets fondamentaux, on aimerait le voir davantage faire ce que Pérez de Cuellar a fait, ce que d'autres ont fait, ça veut dire de rentrer carrément dans les crises pour essayer d'apporter, par son entremise, davantage de coopération entre les permanents. Alors, il vient de le faire sur le Yémen, davantage. Il y a eu cet accord, n'est-ce pas, à Stockholm. Mais ça, je me suis réjoui de voir qu'il s'engageait. Et je pense, si vous voulez, que c'est le rôle du secrétaire général. Je crois que Kofi Annan le faisait bien. Je crois qu'il ne faut pas courir le risque, n'est-ce pas, de rater. Mais c'est sa responsabilité. Et donc voilà, j'espère qu'il s'engagera davantage.
Anne-Cécile Robert.
À la décharge d'Antonio Guterres, l'actuel secrétaire général de l'ONU, il faut remarquer que quand il a été élu, on pensait que ce serait dans le cadre d'une administration Clinton, ouverte sur le multilatéralisme. Et là, il se trouve confronté à des ennemis particulièrement tenaces et sans scrupules. Donc la tâche est très compliquée pour lui. Après, je partage l'analyse de Jean-Marc de la Sablière. Antonio Guterres n'utilise pas toute la marge de manœuvre qu'il a, et notamment qui est celle du magistère de la parole. Un secrétaire général, même s'il n'a pas forcément de pouvoir pratico-pratique, il a le pouvoir de parler, de dire la norme. Alors quand on suit son fil Twitter, on voit qu'il dit beaucoup de choses, mais parfois ça mange pas de pain, quoi. Hein. C'est un petit peu bisounours. Et compte tenu des dangers qui pèsent sur la société internationale, on pourrait attendre de lui qu'il soit un peu plus ferme, un peu plus engagé. Bon, avec le risque pour lui de ne pas être reconduit. Je ne sais plus qui disait, un secrétaire général de l'ONU peut tout faire à condition d'accepter de ne pas être réélu. Mais c'est peut-être la dignité finalement de ce poste et d'une personne dans les temps que nous vivons et qui sont des temps dramatiques, que de courir ce type de risque pour essayer de faire avancer un petit peu les valeurs communes et peut-être, sortons les grands mots, parce que c'est un peu ça qui est en cause aujourd'hui, une forme de civilisation.
Alors davantage d'engagement de la part du secrétaire général de l'ONU, Alexandra Novoselov.
Oui, ça je suis d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Antonio Guterres n'a pas à son actif de réel succès politique, on le sent extrêmement prudent vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis des grandes puissances en général en fait, et que là, on voudrait qu'il sorte un peu des fois de ses gonds et qu'il dise son indignation de manière plus forte sur un certain nombre de crises. On l'a mal entendu sur la crise des Rohingyas, le Yémen, ça a été quand même très compliqué, très très long. Donc je crois que là où tout le monde attend le secrétaire général, c'est sur les valeurs du multilatéralisme. Et là, on le sent trop prudent en réalité, même si certains disaient lors de son élection qu'il serait le secrétaire général d'un seul mandat, que lui-même n'était pas forcément volontaire pour briguer un second mandat. Donc on voudrait se dire mais qu'il y aille, quoi.
Alors c'est peut-être sur le rôle et l'engagement du secrétaire général des Nations Unies que nous allons terminer cette émission. Merci Alexandra Novoselov. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis le bureau de Pascal Thibault, notre correspondant à Berlin, que je remercie au passage. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'International Peace Institute de New York et au Centre Thucydide de Paris 2, Panthéon Assas. Merci aussi à Jean-Marc de la Sablière, ambassadeur de France et ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, et Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde Diplomatique et spécialiste des institutions européennes de l'ONU et de l'Afrique. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.